Shalom à tous, Erev Tov, Lekulam, Shalom Uvracha. Erev Tov, Yom Chamishi, le moment de notre étude dans la Midrashet Manitou. Erev Tov, juste faites-moi un signe comme d'habitude pour me dire qu'on est go, qu'on est ok. Et comme ça, eh ben, on y va. Alors dites-moi que tout va bien, qu'on m'entend bien. Tout va bien, ben, c'est super. C'est super. Alors, bah, on y va alors. Hein, puisque c'est comme ça. Ouais. En régie, Midreshet Yehuda. On est bon. OK pour le son. Très bien. Bon. Juste un petit signe des patrons de la Midrasha. Comme ça, on est bon. Ouais. Hop là. Peut-être que c'est en rapport avec le cours. Allô? Ah, ça va, va. Peut-être à Soguer. Azani, Aniavo Machaba Boker. À la Boker. Ok, Metsuyan. Toda. Yofi! Excusez-moi. C'est parti! Alors, on y va. Yalla. Erev Tov Lekulam. Donc, nous sommes dans la fin du livre de Bamidbar. Parashat Matot Masei. C'est tout un programme. C'est tout un programme. Je préfère vous le dire tout de suite. Et on doit se poser une question. On doit se poser une question quand on regarde cette parashat de Matot et Masei. C'est qu'est-ce qu'elle fait là? Je parle au singulier, mais qu'est-ce qu'elles font là? Je m'explique. On est dans la conclusion du livre de Bamidbar, mais en vérité, la vraie conclusion du livre de Bamidbar, c'était ce qu'on a lu Shabbat, la paracha de Pinchas. Eh oui, d'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Rashi qui le dit lui-même. Vous savez, dans la paracha de Pinchas, on va faire un décompte des Béné Israël, et Rashi posera la question en disant, mais pourquoi est-ce qu'on doit refaire un décompte des Béné Israël dans la mesure où on l'a déjà fait au début du livre de Bamidbar, dans la paracha de Bamidbar, et Rachid de nous expliquer, ben voilà, le décompte du début, c'était le début, et là, ben on est après toutes les péripéties du désert, et donc, eh bien, on va compter à la fin de l'histoire pour savoir, ben, faire l'inventaire, qu'est-ce qui reste à la fin de l'histoire. En d'autres termes, eh bien, nous sommes arrivés à la fin de l'histoire. Donc, la paracha de Pinchas est la paracha qui conclut le livre de Bamidbar. Donc, que vient faire ici la paracha de Matot et Masei? Que viennent faire ici ces deux parachutes? Il va falloir essayer de comprendre cela et de répondre à cette question. Parce que si on se regarde un petit peu le livre de Bereshit, de Shemot, Vayikra et Devarim, eh bien effectivement, ça se termine comme il faut. C'est-à-dire que Bereshit, tout le processus avec l'arrivée du peuple en Égypte, eh bien ça se termine là-bas. Voilà. Shemot nous parle de la construction du Mishkan. On termine avec Pekoudé et enfin, ça y est, la Shrina, la présence divine, réside dans le Mishkan. Vayikra, mais à la fin de Bechukotai est véritablement une conclusion. C'est d'ailleurs, les versets reprennent cela. Et dans la fin de Devarim, c'est la mort de Moshe, véritable conclusion du Pentateuque. Donc, pourquoi ici, alors qu'on a une conclusion dans la parasha de Pinchas, eh bien, on a le besoin de cette doublée, de ce doublé de parashiot, Matot Masei. Eh bien, la vérité, les parachutes de Matot Masé mériteraient, si vous voulez, d'être dans un livre intermédiaire entre Bamidbar et Dvarim. Ce n'est pas encore Dvarim, mais ce n'est plus véritablement Bamidbar. Je veux expliquer de quoi je parle. Quelqu'un qui aurait eu, je ne sais pas moi, un accident, l'homme chané, et il aurait le pied dans le plâtre pendant 3 mois. Très bien. Eh bien, pendant ces 3 mois, toutes les 2 semaines, il doit aller faire une radio pour voir que l'os se remet bien en place et le médecin lui change le plâtre et lui fait des piqûres et ce que tu veux, je ne sais pas. Toute cette période-là, c'est la période du tikkun. C'est la période où on vient réparer la jambe du bonhomme. Et puis arrive un moment où ça y est, la jambe est guérie. Ça y est, c'est bon. La jambe est guérie et donc à ce moment-là, bah, qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh bien, il reste à faire une seule chose. Retirer le plâtre. Et est-ce que la personne peut aller gambader? Eh bien, pas tout de suite. Ah ben non. Il y a maintenant une période de remise à niveau, de remise en forme, physiothérapie, appelez ça comme vous voulez. On va chez le kiné, quoi. Et plus le temps avec le plâtre était long, plus la kiné doit être longue. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire ça? Bah parce que la jambe, elle a été un peu atrophiée, machin, et donc il faut lui redonner de la force pour qu'elle puisse ensuite aller gambader. Eh bien, il en va de même dans notre paracha. Pinchas, on a dit, vient clore 38, voire 40 années de désert, d'exil particulier dans le désert. Là, le livre de Devarim va être le livre de notre entrée en Israël. Il faut donc, eh bien, tout simplement une préparation à l'entrée en Israël. Eh oui, cette préparation, c'est ce qu'on appelle le sevrage du désert. C'est la paracha de Matot et de Massé. Leur rôle est donc, eh bien, de nous remettre en forme pour pouvoir intégrer le livre de Devarim. En d'autres termes, pendant toute la période de l'exil, et dans le désert également, eh bien, on était là à corriger tous les problèmes. Effectivement, on a vu ensemble, dans le livre de Bamidbar, c'était problème sur problème sur problème. Et à chaque fois, il fallait corriger les choses. Maintenant, ça y est, tout est prêt. Mais il faut passer un peu d'huile et un peu de lustrant sur le tout pour qu'on puisse commencer véritablement à bosser. Et c'est à ça que vient répondre nos deux parachutes. Et donc, venez, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet des parachutes pour comprendre de quoi il s'agit. La première chose à faire, quand on ouvre la paracha de Matot, on tombe sur Ilchot Nedarim. Ilchot Nedarim, Shevoa, bizarre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Là, maintenant, on me raconte les halakhot sur les Nedarim. Les Nedarim, les vœux en français. C'est bizarre. Non, pourquoi c'est bizarre? Ben parce que c'est quoi cette histoire de Nedarim? Je reprends le texte de la Torah directement. On me dit ici, donc dans le chapitre, Lamed, verset Bet, on me dit, Vaidaber Moshe el Rashi Amatot Livne Israël Lemor. Ze Adavar Asher Tziva Hashem. Ish ki idor neder l'Hashem, o Ishava Shevoa, Leisor Isar al Nafsho, Lo Yachel Devaro, Kechol Ayotse Mipiv, Yaase. De quoi parlons-nous? Neder ou Shevoa? En d'autres termes, en français, ses vœux, c'est quoi? Eh bien, c'est la capacité qu'a le peuple juif, toi et moi, chaque individu dans le peuple juif, a réinventé une nouvelle version du judaïsme. Ni plus, ni moins. Mais je vais peut-être un petit peu vite en besogne, 2 secondes. D'après le judaïsme, la parole a une importance fondamentale. La parole, ça a non seulement une importance fondamentale, mais j'irai même plus loin en disant qu'elle est créatrice. La Mishnah, dans le traité de Pirkei Avot, au chapitre 5, Mishnah 1, nous dit « Be'asara ma'amarot nivra ha'olam ». Le monde a été créé « Be'asara ma'amarot ». En 10 paroles, Dieu a créé le monde. En d'autres termes, évidemment que la parole est créatrice. Maintenant, à notre niveau, on le sait également. Alors, peut-être pas de créatrice du monde, mais quand vous dites une belle pensée, enfin une belle parole à quelqu'un, vous lui créez la joie dans sa journée. Quand vous lui dites une crasse, eh bien, vous lui créez la déception, la tristesse dans sa journée. La parole est créatrice. D'ailleurs, vous savez, nos amis magiciens l'ont très bien compris, puisque dans le monde de la magie, eh bien, on nous dit, c'est quoi la formule magique de base? Abracadabra. Et allez voir la page Wikipédia de Abracadabra. Ils vont vous dire que ça vient de l'hébreu, enfin de l'araméen. Abracadabra. C'est-à-dire, il a créé par la parole, bara, kedabra, badibour. C'est de cela qu'on parle, la parole est créatrice. Donc ici, on nous apprend à parler. Ilchot Nedarim. Quelles sont les dimensions dans lesquelles ta parole peut avoir une incidence? Et donc, on va te donner les lois du Neder et du Shvoa. La différence entre l'un et l'autre n'est pas très, enfin, très importante, mais c'est pas ce qui va nous intéresser ce soir. Est-ce que l'un porte sur l'élément en question, et c'est ce qu'on appelle une chevoie, et le neder porte sur la personne qui fait le neder. Venons essayer de comprendre de quoi il s'agit. Je vous ai dit tout à l'heure que nedarim, chevoie, c'est ce qui permet en fait de créer un nouveau judaïsme. Qu'est-ce que ça veut dire, créer un nouveau judaïsme? Ça paraît quand même absurde. Eh bien, dans le judaïsme, il n'y a aucun statut particulier aux pommes. La pomme n'a pas de statut particulier. La pomme, c'est un fruit, c'est moutard, parvé. Il n'y a aucune obligation de manger une pomme. Alors vous savez quoi ? Non, je ne vais pas prendre la pomme parce que vous allez me dire qu'en Rosh Hashanah, il y a une obligation de manger de la pomme. Ah. Nous, alors prenons, moi je ne sais pas, le litchi. Ah, c'est quoi ? Ils ne connaissaient pas le litchi à l'époque de la Torah, donc comme ça, c'est sûr qu'il n'y a pas d'obligation. Donc le litchi, eh bien, le litchi, je peux en manger, je peux ne pas en manger à Kol Beseder. Mais si moi, quand je mange un litchi, ça me transporte dans des dimensions d'élévation spirituelle incroyables, que je prends la décision qu'Ani Noder l'Echol Litchi Echad Beyom. Voilà, je prends sur moi le Neder qu'une fois par jour, c'est pas vrai, hein, l'Ineder. Je prends sur moi le Neder, disons, de manger un Litchi une fois par jour. Bon, bah très bien. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant ? Et ça veut dire que maintenant, pour moi, le Litchi une fois par jour, c'est une mitzvah tassé. Et si un jour je ne mange pas de Litchi, j'ai transgressé la Torah de la même façon que si je n'avais pas fait le kiddush Shabbat. Ah bah oui. Ou alors l'inverse. J'ai mangé un litchi un jour et j'ai oublié d'enlever le noyau. Et je me suis étouffé. Et on a obligé de me faire la procédure de Amish et on m'a fait recracher le noyau. Mais moi, j'ai très très peur. Résultat des courses. Eh bien, traumatisé de l'événement, je décide de faire un neder de ne plus jamais manger de litchi. Et bien, à partir de ce moment-là, si jamais je mange un litchi, eh bien, ça aura simplement voulu dire que j'ai transgressé la Torah comme si j'avais mangé du cochon. Ni plus, ni moins. Mais le neder peut aller encore plus loin. Je peux même, par mes nedarim, annuler une mitzvah tassée de la Torah. J'ai donné comme exemple... dans un autre cours que j'ai donné, le metfilin. J'ai metfilin dans un sac à dos. Et je suis en train de faire la course avec mon fils dans un tioul. Et je glisse. Et mon sac est en train de tomber. Et il va dérouler toute la falaise. Et moi, je me précipite pour récupérer mon sac. Je ne veux pas que metfilin tombe de la falaise. Seulement, en même temps que mon sac qui dégringole, il y a mon fils qui a glissé et qui est en train de dégringoler aussi. Seulement, moi, j'ai préféré aller sauver. Je les ai sauvés, hein. Mais j'ai retrouvé mon fils en bas de la falaise, pas dans le meilleur état possible. À ce moment-là, je me sens terriblement coupable d'avoir préféré mettre Tfilin à mon fils et à Ninoder de ne plus jamais mettre les Tfilin. À ce moment-là, j'ai plus le droit de mettre les Tfilin. D'après la halakha. Jusqu'à ce que j'aille voir un rabbin qui va me faire Atarat Nedarim, ce que tu veux. En d'autres termes, les nédarim, c'est la puissance de la parole qui me permet de créer une réalité. Créer, donc j'ai dit, un commandement positif, créer un commandement négatif et même annuler un commandement positif déjà existant. Alors, dans la mesure où ce n'est que ma parole et pas celle de Dieu, eh bien, il est évident qu'elle est moins puissante que celle de Dieu et donc je ne peux pas, avec ma parole, annuler un commandement négatif qui existe déjà. Ça, c'est pas possible. C'est-à-dire, je peux pas dire, moi, je suis fan, du meurtre. Donc, viens, je vais faire un néder de tuer quelqu'un une fois par jour. Non, pas possible. Oui, j'ai dit, il y a une différence entre néder et chevoua. Sans rentrer dans le détail, c'est la différence qu'on appelle entre Hefza et Gavra. Est-ce que lorsque j'ai fait mon néder sur les litchis, c'est moi qui suis en néder? C'est-à-dire que moi, je n'ai plus le droit de toucher un litchi, ou est-ce que c'est le litchi qui est interdit ? Dans le cas d'une chevoie, dans le cas d'une chevoie est annulée. J'ai pas compris. Je peux pas répondre à la question, j'ai pas compris la question. Mais de manière générale, la différence entre neder et chevoie, c'est est-ce que ça porte sur ma personne ou ça porte sur l'objet en question. Pour les tefilines, non, c'est le kokach méchané. Ça ne change pas grand-chose. Maintenant, il est évident que si je fais ce néder-là, de plus jamais mettre les tefilines, ce n'est pas une très très bonne idée et il vaut mieux très vite aller faire un tarat nédarim, bien sûr. Quoi qu'il en soit, le début de la paracha de Matot m'apprend que la parole est très importante. Bon, il n'y a pas de problème en soi, tout à fait. Alors après, il y a plein de dinim. qui peut annuler les vœux de qui et tout ça. Très bien. Mais la question profonde, c'est qu'est-ce que ça fait là ? Pas que c'est pas bien d'en parler maintenant. C'est que si la parole est si importante et elle l'est, pourquoi ne m'a-t-on pas donné Ilchot Nedarim dès notre sortie d'Égypte ? Ou pourquoi est-ce qu'on n'en a pas parlé Bichlal dans le livre de Bereshit ? L'importance des Nedarim ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi seulement maintenant ? Vous savez, cette question, je vais l'étendre. Aller encore plus loin. Aujourd'hui, on ne connaît pas véritablement la situation, la réalité des Nedarim, des Shvuot. Ce n'est pas quelque chose qui fait réellement partie de notre univers. Mais posons-nous la question. Aujourd'hui, quelque chose qui est en direction, en direct avec la parole. D'ailleurs, entre parenthèses, vous vous rappelez de ce masque ? Notre fameux masque coronien. Je pense, personnellement, que ce moment du corona, alors, vu qu'on ne sait pas pourquoi c'est là, pourquoi ça vient, d'où c'est venu, ça, on ne sait pas. Mais par contre, on peut tout à fait décider d'en tirer nous-mêmes des enseignements pour l'avenir. Bah, moi, personnellement, je me dis que si ça fait quelques mois qu'on se balade avec un truc sur la bouche, bon, sur le nez normalement aussi, mais sur la bouche principalement, pour empêcher de transmettre des mauvaises choses à d'autres, puisque les scientifiques nous ont expliqué que le masque n'était pas là pour me protéger moi des autres, mais était pour protéger les autres de moi. C'est-à-dire que c'est mes postillons qui vont être tenus par le masque. Le masque ne va pas tellement arrêter ce qui vient de l'extérieur. Bon, très bien. Donc, ça veut dire que porter ce masque, peut-être que c'est le moment de prendre conscience qu'il ne s'agit pas que du corona et que ce n'est peut-être pas une mauvaise idée, même quand on enlèvera les masques, de faire attention à ce qu'on sort de notre bouche avant de le sortir. La réalité aujourd'hui de la parole, on le retrouve dans une halakha qu'on connaît très bien, qui s'appelle le Lashon Hara. Et c'est terriblement important, le Lashon Hara. Mais donc, la question retentit. Si c'est tellement important, et ça l'est, c'est beaucoup plus important, alors que les choses soient bien claires, c'est beaucoup plus important, halakhiquement parlant, on ne fait pas d'échelle de halakha, mais quand même, c'est beaucoup plus important de ne pas dire de Lashon Hara que de manger du cochon et des fruits de mer. Halakhiquement parlant. Quand tu fais du Lashon Hara, tu as parlé sur quelqu'un, tu as médit quelqu'un, mon ami, c'est pire que de manger un jambon beurre. Ah, faut le savoir. Et moi, je me souviens, pendant un de mes groupes, il y a eu un groupe que j'ai guidé en Pologne avec une école dont je tairai le nom, qui porte le nom d'un fils d'un grand philanthrope juif célèbre de Paris. Je crois que l'école est située dans le 19e arrondissement de Paris. Bon, c'est une école où c'est un nom à particules. Il y a un prénom qui s'appelle Lucien et il y a un nom de famille Hirsch avec deux au milieu. Et donc, on est parti en Pologne et tout ça, c'est très sympathique. Sympathique, la Pologne. Et un soir, il y a eu un terrible débat qui s'est enflammé. Je crois que c'était le deuxième soir. Parce qu'en fait, il y a eu le premier matin à l'hôtel. Et dans le premier matin à l'hôtel, on donne aux participants, aux élèves, plein de produits qui sont évidemment cachers. Certains d'entre eux sont amenés d'Israël directement et certains d'entre eux sont sur la liste du grand rabbinat de Pologne, comme on peut trouver la liste du Beit Din de Paris. Et donc, ce matin-là, il y avait du Nutella sur la table. Tollé général, enfin non, pas général, tollé moitié général. Une moitié de l'école a dit « Ah, c'est pas cachère le Nutella, machin, c'est du lait pas surveillé, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. » Les gens ont parlé pendant toute la journée. Il y a eu débat, combat entre les uns, ceux qui étaient pro-Nutella et les anti-Nutella. C'était fantastique. Le soir, c'est vraiment parti en cacahuète sur les réseaux sociaux. On est même arrivé à entendre, nous les guides, que le groupe qui envoie l'école en Pologne, l'agence s'appelle la Chavaya israélite, l'expérience israélienne, fait manger pas cachère les enfants dans les voyages en Pologne. Bon, absurde. Et moi, on m'a téléphoné. On m'a dit, mais attends, mais comment c'est possible, faites manger pas cachère les enfants ? Je dis, quel pas cachère ? Et je leur ai montré le certificat comme quoi le Nutella en Pologne est sur la liste du grand rabbinat de Pologne, d'ailleurs dirigé et surveillé par le grand rabbin de Pologne, le Rav Chodrich. Mais enfin, bon, c'est pas ça le problème. Un des autres guides qui était avec nous à ce moment-là a pris la parole et a dit, vous savez, vous pouvez vous battre autant que vous voulez sur le Nutella, mais moi, j'ai fait quelques années d'yeshiva, une dizaine, et moi, j'ai toujours appris qu'avant de vérifier et de faire très attention à ce qu'on mettait dans nos bouches, il fallait d'abord faire attention à ce qu'on en sortait de nos bouches. Et c'est une véritable leçon. Parce que, évidemment, que ce qui sort de notre bouche, c'est fondamental, puisque la parole est créatrice. Donc, il rote la shonara, c'est fondamental. C'est d'ailleurs ce qu'écrit le Rav Israël Meir HaKohen, le Chafetz Chaim de Ravin. Il rote le Chafetz Chaim, je mirata la shon. Mais mon problème, c'est pas pourquoi le Chafetz Chaim a écrit ça. Mon problème, il est comme pour ma tante. J'ai pas de problème pourquoi c'est marqué maintenant. J'ai problème pourquoi c'est pas marqué avant. Pourquoi dans le Shulchan Aruch, on nous parle pratiquement pas une ligne et demie du Lashon Hara? Pourquoi le Rambam, qui a écrit 1000 chapitres dans son Yad HaChazaka Mishneh Torah, pourquoi il parle pas de Hilchot Lashon Hara? Pourquoi il a fallu attendre le 19e siècle pour quelqu'un s'occupe de Lashon Hara? Eh bien, en fait, c'est la même raison. Le roi Salomon, Shlomo HaMelech, nous explique dans le livre de Michelet, la sagesse du misken, du neber, comme on dit en arabe, misken, comme on dit en yiddish, la sagesse du misken est tournée en dérision et ses paroles ne sont pas entendues. Vous vous rappellerez donc, bien sûr, évidemment, les paroles du Sefer HaKodesh, Le Petit Prince, de Antoine de Saint-Exupéry, Zal. Eh oui, dans le deuxième chapitre, lorsqu'on nous raconte qu'un jour, un astronome turc a découvert l'astéroïde B35. Et donc, il a fait une démonstration de sa découverte à tout le parterre scientifique de son époque. Le problème, c'est que sa démonstration scientifique, qui était parfaite, il l'a faite en habit traditionnel turc, en babouche, en talbouche et en djellabouche. Tous les scientifiques se sont moqués de lui. Un an plus tard, il refait sa même démonstration, mais cette fois habillé à l'européenne, en costume trois pièces, en monocle et en chapeau. À ce moment-là, l'assistance se lève, l'applaudit et dit que c'est une découverte extraordinaire. À leurs yeux, lorsqu'il était habillé en turc, il était misken. Donc, quel que soit ce qu'il avait à dire, personne ne l'écoutait. Eh bien, Rabotai, nous sommes dans le même cas au niveau de Stam la parole. Chochmat amisken bezuya udvara venam nishmaim. Tant qu'on est en exil, notre parole est en exil également. Notre parole n'a pas véritablement d'incidence. On est de toute façon considéré comme des miskenim par tout le monde. Et donc, tant qu'on est en exil, ce n'est pas tellement important de réapprendre à parler. Mais lorsqu'on sort d'exil, qu'on va retrouver notre place parmi la communauté des nations, que notre parole va redevenir importante parce que nous ne serons plus miskenim, alors il faut réapprendre à parler. C'était donc vrai à l'époque de Parashat Matot, c'est d'autant plus vrai au 19e siècle, lorsque HaKadosh Baruch Hu se prépare à faire sortir son peuple d'un exil bimillénaire, eh bien, il faut envoyer le Chafetz Chaim pour réapprendre au peuple juif à parler, car de nouveau, sa parole va retrouver toute son importance. La paracha de Matot s'ouvre donc sur les lois de la parole pour nous expliquer que maintenant, eh bien, notre parole va avoir une incidence. Il a fait. D'ailleurs, entre parenthèses, pendant toute la période du Tanakh, il n'y a pas de Lashon Hara. Les gens font pas, ils font de la Avodah Zarah, ils font Shur Damim, hein, ils font pas de Lashon Hara. Les gens, à l'époque, ils savaient, à l'époque du Tanakh, ils savaient à quel point la parole était importante. Comment ça? Ben, c'est très simple. Ils avaient la prophétie, donc ça veut dire qu'ils entendaient la parole de Dieu, ils comprenaient à quel point c'était important. Donc leur parole, c'était pas stam. C'est pour ça qu'à l'époque, quand tu pars en vacances, toi aujourd'hui, tu fermes à double tour, tu mets une alarme directement connectée au Shabak, ce que tu veux. À l'époque, tu mettais un mot sur la porte avec une clala. Genre celui qui pénètre chez moi, je le maudis sur cette génération. Ben, c'est bon, ça suffit, les gens ils rentrent pas. Parce que les gens savaient qu'une klala, comme une bracha, ça a une véritable valeur. C'est donc de cela qu'on parle, les amis. Fort de notre parole retrouvée, ça y est, eh bien, on pourrait avoir quand même un danger. ce danger, ce serait quoi? Ce serait de dire, bah voilà, nous sommes des beaux parleurs. Sauf que combien de fois mes parents m'ont rappelé cette réalité que je suis, à mon avis, pas le seul enfant à avoir entendu ça. Le fameux Yaka. Bah, Yaka faire ça. Faudrait qu'on fasse ça. Mes parents disaient tout le temps Yaka faucon. Yaka faire ça, faut qu'on fasse ça. C'est bien, tu donnes des directives, mais au boulot, fais. A-t-on besoin véritablement de la loi des Nédarim si la Torah écrit par ailleurs l'oteler pour m'apprendre l'importance de la parole? Eh bien oui, parce que l'oteler achil, c'est négatif. C'est-à-dire que lorsqu'on te dit ne va pas me dire, c'est négatif. Est-ce que ça me dit à quel point dire des choses positives, c'est créer par ta parole, c'est aussi pour créer le bien. Les Nédarim sont sur le point positif. C'est-à-dire que on ne te dit pas seulement fais attention à ne pas dire des choses mauvaises, mais on te dit ta parole peut aussi avoir une dimension de création positive. Donc je disais, Yaka Faucon, retrouver notre puissance de parole, c'est bien. Mais si on n'en est que à nous résoudre à parler, c'est pas moi qui l'ai écrit, hein. Paroles. C'est pas moi, hein. Il faut être également capable d'agir. Et c'est la suite de notre paracha. La suite de notre paracha nous met face à une réalité absolument terrible. La guerre contre Midian. Nous dit Akadosh Baruch Hu, dans le chapitre 31, « Vaidaber Hashem el Moshe lemor, nekom nikmat bene Israël met amidyanin, achal te'asef el amecha. » Nekom en nikmat bene Israël met amidyanin. Il faut faire la guerre contre les gens de Midian. Bon, les gens de Midian nous ont fait beaucoup de problèmes, particulièrement dans la paracha de Balak et Pinchas, on le sait. Et donc, il est temps de leur faire la guerre. Mais attention, ce n'est pas une guerre... Vous allez me dire, il n'y a aucune guerre qui est jolie, c'est certain. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. De la même façon que les guerres d'aujourd'hui, aussi difficiles soient-elles, n'ont rien à voir dans leur barbarie aux guerres napoléoniennes. Les guerres napoléoniennes n'ont rien à voir, mais rien du tout, avec les guerres de l'époque du Tanakh. C'est d'une violence. Oïe, oïe, oïe. Ah, la Convention de Genève, je peux t'assurer qu'ils ne connaissaient pas à l'époque. Ça, c'est... La guerre contre les Midianim, elle est terrible. Massacre, hommes, femmes, enfants. Et on voit même après qu'on ait fait des prisonniers, Moshe ne dit pas du tout. On ne garde pas de prisonniers midianites, à part les femmes qui n'ont pas connu d'hommes et qui vont pouvoir se convertir et se marier avec vous. Vous allez donc sortir ce qu'il y a à sortir de bien de Midian. Mais tout le reste, même dans le camp des prisonniers, on tue tout le monde. Et puis, il n'y a pas que la guerre de Midian, hein, la guerre d'Amalek, la guerre contre les Cananéens. Ce sont des guerres terribles. Aucune rachamim, aucune miséricorde. Et la question, c'est comment ça se fait que la Torah nous a demandé d'être aussi violent? Cette question était la question posée par le Rav Moshe Dr Zeidel au Rav Kook. Le Rav Kook avait beaucoup d'entretiens avec beaucoup de personnes, et on peut retrouver la majorité de ses correspondances dans le livre Igrot Reiya. Et il y avait un homme qui s'appelait Moshe Zeidel, qui était un élève de la Yeshiva Telz, et qui, quand il avait des questions de Emouna, eh bien, il les posait au Rav Kook. Et le Rav Kook l'appelait toujours le Rav Moshe Dr Zeidel. Il mettait Rav devant le nom en hébreu et le titre, je crois qu'il était docteur en littérature ou un truc comme ça, et le titre devant le nom en famille, nom juif. Donc il l'appelait le Rav Moshe Dr Zeidel. Est-ce que Myriam n'a-t-elle pas fait du Lachon Hara? Ah, Myriam n'a-t-elle pas fait du Lachon Hara? Mais si je ne m'abuse, je ne sais pas, mais si je m'abuse, la paracha de Myriam, c'est avant cette paracha de Matot. Donc, ça veut dire qu'on n'avait pas encore reçu toutes ces lois-là. Ça a l'air. Et encore, il faudrait voir si c'est BMM du Lachon Hara ce qu'elle a fait Myriam. Je ne me rappelle plus si on avait évoqué dans la paracha de Baalotecha. Mais ça, il faut voir. Je ne me rappelle plus. Mais Kitsour, comment ça se fait, nous dit le Rav Moshe Dr Zeidel, il demande au Rav Kook, comment ça se fait, les Inyan Amilchamot, que Dieu a demandé d'être aussi violent dans les guerres du Tanakh? Et le Rav Kook va lui répondre. Il va lui dire, mon ami, tu ne peux même pas t'imaginer la dépravation morale qui était celle des Cananéens et des peuples environnants à l'époque. Et je fais une digression qui n'en est pas vraiment une. Il y a à peu près 120 ans, deux personnages, deux géants de la Torah, se baladent ensemble à côté de ce qui est aujourd'hui la Cinémathèque à Jérusalem. Il s'agit du Rav Kook et du Rav Yosef Haïm Zonnenfeld. Le Rav Kook, on connaît, le Rav Zonnenfeld est celui qui va devenir le père du mouvement antisioniste. À l'époque, ils sont donc évidemment pas d'accord sur pas grand, ils sont d'accord sur rien, mais ils sont tout le temps ensemble, ils se respectent l'un l'autre, pas de problème, ce sont les deux grandes autorités religieuses de la terre d'Israël. Et ils se baladent là-bas. Ils voient quoi? Eh bien, ils voient les Chaloutzim qui habitent à Mishkenot Sha'ananim, Yamin Moshe. Le Rav Zonnenfeld dit au Rav Kook, ah, tout est pourri, rien n'a changé, rien n'a évolué, tout est toujours pourri, regarde-les, ils mangent des nevelotes vetrefot, ils ne font pas Shabbat, et tout est pourri, rien n'a évolué. Et le Rav Kook lui dit, mais non, c'est faux, bien sûr que ça a évolué. Alors oui, ils mangent des nevelotes vetrefot, oui, ils ne font pas Shabbat, c'est nachon. Mais tu sais, aucun d'entre eux là n'a pris son premier-né et l'a balancé dans le feu. Parce que là où nous nous trouvons, dit le Rav Kook, il y a 3000 ans, eh bien, on sacrifiait les bébés au Molech. L'une des grandes idolâtries cananéennes, c'était Avodat HaMolech, de prendre son premier-né, de le balancer dans le feu. Mais tu te rends compte? Le Rav Kook, il dit au Rav Zonnenfeld, aujourd'hui, on ne fait plus ça. Ça a évolué dans le bon sens. Alors, il y a encore des choses à faire, mais de dire que ça n'a pas évolué, c'est absurde. Et c'est exactement de cela que je veux parler. Comprendre c'était quoi la dépravation morale des cananéens. Difficile, on ne connaît pas beaucoup de Cananéens actuellement. Allons voir un autre peuple qui a été lui aussi choqué des agissements des Cananéens. Mais avant de vous dire quels étaient les agissements des Cananéens, je veux juste que vous compreniez, le peuple choqué, ce n'était pas des enfants de cœur. Le peuple choqué en question, je vous parle des Romains, l'Empire romain, les mecs qui ont quand même inventé les jeux du cirque. Que leur kiff ultime, c'était de voir des gladiateurs s'entretuer ou tuer des esclaves. De voir des esclaves se faire déchiqueter vivants par des animaux sauvages. Et ça, c'était le kiff des gens. Donc, t'imagines que cette société-là, je la place pas très très haut dans l'échelle de la morale. Eh bien, ces Romains-là, lorsqu'ils vont faire le siège de Carthage, car oui, Carthage, c'est les derniers Cananéens. Les Carthaginois, vous demandez aux historiens, vous diront que ce sont des Phéniciens. D'après la Torah, nous savons qu'un des sept peuples cananéens, le Girgashi, eh bien, a décidé de ne pas se faire la guerre avec Yehoshua et a fui. Il est parti, nous dit Rashi, qu'il est arrivé en Africa, Tunis. Et là-bas, ils ont créé l'Empire de Carthage. Les mêmes pratiques, les mêmes divinités, les mêmes mamaches. Et les Romains écrivent, dans les historiens romains qui racontent la guerre de Carthage, ils disent qu'ils sont choqués de voir que les Carthaginois vont balancer 300 bébés du haut des montagnes en offrande aux dieux. Ça va choquer même les Romains. Donc, tu peux que commencer à comprendre à quel point les Cananéens et tout ce qui nous entourait à l'époque étaient d'une bassesse morale absolument incroyable. Et dit le Rav Kook, eh bien, quand tu fais face à des loups enragés, tu ne peux non seulement pas te comporter comme un agneau, tu ne peux pas non plus être un loup. Il faut être un lion. Si je devais le traduire en moderne, je dis, tu devrais être un Tyrannosaurus Rex mutant avec des lasers entre les yeux. C'est-à-dire que tu dois utiliser une puissance démesurée pour écraser ce loup enragé. Pourquoi ? Pour que la morale que tu prônes puisse s'installer dans le monde. La Rabotai, c'est exactement ce qui s'est passé. Oui, le peuple juif a fait preuve pendant une courte période de son histoire d'une violence et d'une barbarie extrême. Pourquoi ? Pour que la morale juive, que le monde occidental appelle la morale judéo-chrétienne, puisse se développer dans le monde. Oui, en 2020, le monde est beaucoup plus moral qu'il l'était il y a 3000 ans. Ça ne veut pas dire que tout le monde est bien. Il y a des pourris encore aujourd'hui, il n'y a pas de débat. Quand tu vois un mec qui se met une ceinture d'explosifs et qui va se faire péter dans un bus, il est pourri le mec, il n'y a pas de problème. Mais au niveau de la société humaine, elle a avancé dans le bon sens. Pratiquement tous les pays du monde souscrivent à l'ONU et là-bas, eh bien, on reconnaît la Déclaration universelle des droits de l'homme, là-bas, on reconnaît les droits aux femmes, là-bas, on reconnaît. Bon, alors, c'est toujours une plaisanterie quand tu vois des pays qui n'accordent pas le droit aux femmes, aucun, zéro, gournicht, ni gournicht, qui accusent Israël de ne pas respecter les droits des femmes. Bon, ça, c'est une blague. Mais de manière générale, il est évident que le monde a avancé dans le bon sens. Et c'est grâce à quoi? Eh bien, c'est grâce à cette morale que eux appellent judéo-chrétienne, qui est juive en fait. Et qu'on a pu mettre en place parce qu'à un moment donné, on a éclaté ces gens qui étaient d'une bassesse morale incompréhensible. En d'autres termes, et la meilleure preuve, c'est que lorsque Dieu s'adresse à Moshe en disant « Il va falloir que tu dises au Bnei Israël de faire la guerre contre Midian », Dieu, il dit « Nekom et Nikmat Bnei Israël ». Il faut venger les Bnei Israël sur la chose que les Midianites ont fait. Mais ce n'est pas ce que Moshe dit. Moshe, lorsqu'il voit les Bnei Israël, il dit « Il est temps de l'Inkom et Nikmat Hashem Ben Midian ». Ce n'est pas pour nous qu'on fait ça. C'est pour que la morale d'Akadosh Baruch Hu puisse se dévoiler dans le monde. En d'autres termes, la guerre de Midian a montré qu'on n'était pas seulement des beaux parleurs, mais qu'on était capable également de mettre en pratique, et s'il faut par la force, les idéaux que nous prenons. Maintenant qu'on a vu donc qu'on était capable de bien parler, qu'on est capable d'agir pour réaliser notre parole, alors on est bon. Naron, on est bon. Alors y'a là, commence à dire ce que tu as à dire. Et qu'est-ce que tu as à dire alors? Ben, il fallait rappeler au peuple juif quel est son message. On a dit que maintenant qu'il peut parler et qu'il peut le faire écouter, c'est quoi le message? Eh bien, le message est très simple. C'est ce qu'on nous amène dans la paracha de Matot, au chapitre, cette fois, la Medbet. Qu'est-ce qu'on nous raconte là-bas? Eh bien, on nous raconte l'histoire des tribus de Gad et Réhouven, qui avaient beaucoup de troupeaux, et ils se disent, bon, ben là, on est de l'autre côté du Jourdain, c'est-à-dire à peu près au niveau de la Jordanie actuelle, jusqu'au sud de la Syrie actuelle, au-dessus du Golan. Tout ce territoire-là, ils disent, voilà, écoute, Moshe, ce sont des territoires très fertiles, il y a plein de pâturages, nous, on a plein de troupeaux. Est-ce qu'on peut rester? Alors, évidemment, Moshe leur dit, comment? Nous, on vous a aidé à conquérir cet endroit-là que vous voulez maintenant vous implanter, puisque ces terres-là étaient les terres occupées par Og, Melech Habashan, et Sichon, Melech Haemori. On a conquis ces territoires, toute l'armée d'Israël a battu Og et Sichon dans la paracha de Roukat. Donc Moshe dit, attends, on s'est tous battus pour cet endroit-là, vous n'allez quand même pas nous laisser maintenant nous battre de l'autre côté du Jourdain, parce que vous voulez rester là. Et Bnei Gad et Réhouven disent, fair enough, il n'y a pas de problème, nous on vient se battre avec vous, aucun problème. D'ailleurs, à la fin du livre de Yehoshua, eh bien, on verra qu'ils ont tout à fait respecté leurs paroles et ils sont venus pendant 14 ans se battre aux côtés des Bnei Israël pour les aider à conquérir la terre d'Israël, pas de problème. Ça, c'est trivial, c'est évident. On ne peut pas briser l'unité collective du peuple juif. Mais il y a autre chose. Qu'est-ce qui se serait passé si les Bnei Gad et Réhouven n'avaient pas demandé de s'installer à cet endroit-là? Qu'est-ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu cela? Bonne question. Oui, très bonne question. Eh bien, je vais vous dire. Il se serait passé qu'Israël aurait été complètement isolé du reste des êtres humains. Comment ça? Ben oui, je vous explique. À l'époque, du Tanakh, qu'est-ce qu'on trouve autour d'Israël, autour des frontières d'Israël? Eh bien, à l'ouest, vous avez la mer Méditerranée, il n'y a personne. Au sud de Be'er Sheva, Dimona, vous avez le désert du Negev et ensuite le désert du Sinaï, il n'y a personne. Au nord, ce qui est le Liban actuel à l'époque, ce sont des forêts vierges impraticables. Il n'y a personne. Il n'y a qu'à l'est où il y avait des gens. Mais maintenant, il n'y a plus ces gens-là, puisqu'on a fait la guerre contre eux, on les a éclatés. Donc, si Gad et Réhouven ne vont pas là-bas, eh bien, il y aura un no man's land tout autour d'Israël, qui sera donc symboliquement détaché, isolé du reste de la communauté humaine. Or, si nous avons un message, et nous avons un message, c'est un message universel. Ce que Dieu disait à Abraham, « Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama ». Et donc, il est essentiel que nous puissions avoir un contact avec les dix mishpechot ha'adama. Donc, il est fondamental que cet endroit ne reste pas une zone no man's land. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là-bas. Réhouven Vegad demande donc d'aller là-bas. Alors, je vous le dis tout de suite, ils n'ont pas réussi, Gad et Réhouven. Ils n'ont pas réussi à remplir ce rôle-là. Mais ce n'est pas parce qu'eux ont échoué que le rôle n'est pas à remplir. Il l'est. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Gad et Réhouven devaient donc faire le lien avec le reste de la communauté humaine. C'est encore vrai aujourd'hui. Qui peut réaliser le lien entre les nations et le peuple juif et Dieu finalement? Qui peut le faire? Eh bien, il faut quelqu'un qui comprenne. C'est quand tu parles à quelqu'un, il faut comprendre le langage, il faut comprendre l'idée. Donc, il est évident que quelqu'un, je vais être très trivial, mais quelqu'un qui parle anglais, c'est sa langue, il vient de ce milieu-là, un juif qui a vécu aux États-Unis, il ne peut pas vraiment expliquer à un juif qui vient de France ou à un goy qui vient de France. Ce n'est pas la même mentalité, ce n'est pas la même culture, c'est pas... tu n'es pas sur le même délire. Très souvent, on me demande, est-ce que tu veux guider en anglais des groupes, machin? Bon, pas pendant le corona, évidemment. Et je leur dis non, mais ce n'est pas un problème de langue. Parce que parler anglais, ce n'est pas un problème. Mais parler anglais à des jeunes de 18 ans, si tu n'es pas dans leur move, si tu ne connais pas leur ambiance, ça ne sert à rien. Le message ne passera pas. Donc oui, on peut dire que le fait que Dieu ait envoyé le peuple juif dans toutes ces galouillottes, c'est pour qu'il apprenne comment parler aux nations qui sont dans ces galouillottes. C'est nachon. Mais il n'empêche que même le juif qui a grandi en France et qui donc connaît très bien la culture française, il a vécu là-bas, machin, il n'empêche qu'une grande partie de son identité, c'était sa Yiddishkeit. C'était son côté juif. Donc c'est vrai qu'il connaît bien la culture française, la France, les Français. Mais il ne les connaîtra jamais aussi bien que celui qui vient de là-bas pour de vrai. À savoir la tribu, à savoir les convertis. Les convertis sont ceux qui, mieux que personne, peuvent faire le lien entre les nations et le peuple d'Israël. Vous aurez donc remarqué que les deux tribus qui demandent à aller s'installer là-bas pour faire le lien, c'est Gad et Réhouven, qui ont pour initiale, c'est la guerre, un converti. Le rôle de Gad et Réhouven, qui va être repris au vol par les convertis et les juifs qui ont vécu en exil, eh bien, c'est de pouvoir faire le lien entre les nations et le peuple d'Israël. Et c'est la raison pour laquelle, s'il s'agit de faire le lien, quel est le danger si maintenant moi je vis séparé du reste du peuple juif parce que j'ai un message tout le temps à amener à l'autre? Ben, le risque, c'est que je m'assimile un peu trop à l'autre. C'est pourquoi Moshe va décider. Je réponds à ta question, comment Shevet Menaché a-t-il aussi pris part de l'autre côté du Jourdain? Eh bien, il n'a pas réussi à prendre part. C'est Moshe qui a ordonné que si déjà Gad et Réhouven sont là-bas, sont donc quelque part un peu détachés du reste du peuple juif, eh bien, on va couper la tribu de Menaché en deux et on va leur donner une partie là et une partie là. Menaché, son rôle au sein du peuple d'Israël, Menaché, ça veut dire oublier. Mais la tribu de Menaché sera responsable qu'on n'oublie pas que les deux parties, l'un de l'autre, du côté est du Jourdain et de l'autre côté ouest du Jourdain, ne forment qu'une seule entité. Et c'est pour ça que Menaché seront d'un côté du Jourdain et de l'autre côté du Jourdain, pour faire ce lien, pour comprendre que les tribus de Réhouven et Gad ne sont pas détachées du peuple d'Israël. Alors voilà, la parasha de Matot nous a expliqué que nous avions une parole, que cette parole, ça y est, n'était plus misquène et que nous avions maintenant, eh bien, la capacité concrète, physique, de faire entendre notre voix. Et notre voix, c'est un message universel de retour à Dieu pour l'humanité. On est bon. On peut s'arrêter là, donc. Eh bien, non. Parce qu'il y a un danger terrible. Si j'ai compris que mon message, c'était l'universalisme, peut-être que je vais me dire que l'idée pour le réussir à le faire passer, c'est d'aller là-bas. D'aller chez Monsieur Goy. C'est pour ça que la paracha de Massé arrive et va conclure véritablement toute cette histoire et le livre de Bamidbar au passage. La paracha de Massé nous raconte quoi? Eh bien, c'est un récapitulatif de toutes les étapes du peuple juif qui nous ont amenés à là où nous sommes, depuis la sortie d'Égypte jusqu'ici. Très bien. Le compte-rendu va être vite réglé. 42 stations. 42 stations qu'on voit dans la paracha de Massé, dans le chapitre 33. 42 stations que Chachmé à Kabbalah, Et Manitou nous avait expliqué que ces 42 stations, en vérité, retracent l'histoire humaine. Depuis Adam Arishon jusqu'à Moshe Rabbeinu. Mais sans rentrer là-dedans, 42 stations sont mentionnées dans la Torah en 49 versets. Je ne suis pas en train de faire des guématriotes et un cours de maths. Je dirais simplement que 49, pour nous, quand il s'agit d'étapes, bah ça sonne connu. Ça sonne les 49 jours du Homer, où on sait que chaque jour est une nouvelle élévation spirituelle dans les 49e sphirot, dans les 49 sphirot, pour arriver au 50, au top. Eh bien, effectivement, dans notre paracha de Masé, eh bien, au chapitre 33, au verset numéro 3, commence l'inventaire, l'énumération des 42 Masaot pendant 49 versets. Du chapitre 20, du chapitre 33, verset Guimel, jusqu'au chapitre 33, verset Nounbet. 49 versets pour nous élever dans les 49e degrés de spiritualité et de pureté. Fort de cette élévation, nous pouvons enfin arriver au point d'arrivée, à la 50e, au 50e degré, au verset 53. Et ce verset, ben, il était temps qu'il arrive. Parce qu'enfin, ce verset va être très clair. Pour réaliser notre rêve et notre projet, nous devons avoir une base opérative. Cette base opérative, c'est Eretz Israël. Le chapitre 33, verset 53, nous dit tout simplement, je lis le verset, « Ve'orashtem et ha'aretz v'yishavtem ba, ki lachem natati et ha'aretz la reshet ota. » Et vous conquérerez la terre d'Israël et vous en prendrez possession, car c'est à vous que j'ai donné la terre d'Israël. Il y a donc ici, c'est terminé, plus de débat, une mitzvah d'habiter et de conquérir la terre d'Israël. C'est une mitzvah, Rabotai. Oh, le Sifri va aller plus loin en disant même que c'est une mitzvah qui vaut, comme quatre, il y a quatre mitzvot comme ça, qui valent les 612 autres. Ce n'est pas de la petite mitzvah. Eh oui. Et là, je vois tout de suite des gens qui disent non, comment tu dis que c'est une mitzvah? C'est faux, ce n'est pas une mitzvah. D'ailleurs, la preuve, c'est que le Rambam, Maïmonide, a fait un décompte des 613 mitzvot. Et dans son décompte, eh bien, il n'a pas compté la mitzvah d'habiter en Eretz Israël. Intéressant. Venir au nom du Rambam, pourquoi pas? Pourquoi pas? À ce moment-là, il faut lire tout le Rambam. Parce que le Rambam n'a pas écrit que le Sefer HaMitzvot. Dans le livre de Mishneh Torah, Ilchot Melachim, eh bien là-bas, chapitre 5, le Rambam nous dit noir sur blanc qu'il y a une mitzvah d'habitant en Israël. Il ne l'a pas compté dans les 613. Et il explique également pourquoi. Dans la lettre envoyée aux Juifs du Yémen, Igeret Teman, dans laquelle il dit qu'il n'y a pas de mitzvot qui sont des choses évidentes pour la survie. Il n'y a pas de mitzvah dans la Torah de respirer, il n'y a pas de mitzvah de manger. Il y a une mitzvah de, si tu es rassasié, de faire la bracha. Il n'y a pas de mitzvah de manger. Parce que c'est évident. De la même façon, il n'y a pas de mitzvah d'habiter en Israël. C'est évident qu'un juif, il habite en Israël. Dans le même cas, le Rambam dira, il n'y a pas de mitzvah de faire teshuva, parce que si tu as fait une erreur, tu t'es éloigné de Dieu, ben, tu veux revenir, c'est évident. Donc voilà la raison pour laquelle le Rambam n'a pas compté cela comme une mitzvah. Mais je vous rassure, le Ramban, Nachmanide, lui, dans son commentaire sur le livre des mitzvot du Rambam, va compter cette mitzvah comme étant une mitzvah dans la mitzvah d'Alet. Mitzvah numéro 4, il dit que c'est une mitzvah et que le Rambam ne l'a pas bien compté, il aurait dû la compter dedans. Bam, mitzvah. Donc, si c'est une mitzvah, il faut le faire. Qu'est-ce que ça veut dire par là, il faut le faire? Il y a des juifs qui ne se revendiquent pas de la Torah. On en connaît tous. Des gens qui ne respectent pas la Torah, c'est volontaire, ils ne veulent pas faire la Torah. Donc ces gens-là, de la même façon qu'ils n'habitent pas en Israël, tu ne vas pas leur dire c'est une mitzvah d'habiter en Israël. Ils s'en fichent, ils ne font pas les mitzvot. De la même façon qu'ils habitent à Paris, ils mangent des fruits de mer. Ça va. Fair enough. J'ai envie de te dire, il est cohérent le mec. Il y a des gens qui rêveraient de faire les mitzvot, mais qui ne peuvent pas. Je ne sais pas, moi, quelqu'un, il est en plein milieu du désert. Il n'y a rien à manger à part un dromadaire qui passait par là. Bon, bah, tu manges du dromadaire, c'est assourd. tu aimerais bien manger kasher, avalen malasot. Tu rêverais, avalen malasot. Il y a une tfila extraordinaire. Tfila extraordinaire qui a été rédigée en 1944 dans le camp de Bergen-Belsen. Tfila qui est la tfila avant de manger du chametz à Pessah. Dans la tfila, on nous dit, Avinu shebashamayim, galui veyadua lefanecha, she retzoni laasot retzoncha, ולאכול מצה ולשמור מאיסור חמץ. Tu sais très bien que ma volonté, c'est de faire ta volonté, de manger de la matzah et de ne pas manger de chametz. Mais à cause de l'exil qui est trop long et de la souffrance qui est la nôtre, nous nous apprêtons à réaliser ton commandement qui est de dire « Vachai Bahem » que tu nous as donné la Torah pour qu'on en vive et pas pour qu'on en meure. Et donc, eh bien, nous sommes en état de sakanat nefashot, entre la vie et la mort. Et donc, bien que ce soit Pessah, eh bien, inenu mukhanu muzuman lekayem mitzvat aseh vechai bahem en mangeant du chametz. Extraordinaire. Mais ces gens qui voulaient faire la mitzvah de matzah, ils peuvent pas. Ouais, ils peuvent pas. Évidemment qu'on leur comptabilise comme une mitzvah. Donc, il y a des gens qui rêveraient aussi de vouloir s'installer en Israël, mais qui peuvent pas. Qui peuvent pas à cause de la parnassa, qui peuvent pas à cause, je sais pas, moi, de problèmes familiaux, de problèmes médicaux, j'en sais rien, moi. Celui qui peut pas, il peut pas. רצה לעשות מצווה ונאנס ולא עשה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. Celui qui voulait faire une mitzvah et tout d'un coup il a eu un problème, il n'a pas pu le faire, on lui compte comme s'il l'avait fait. Donc il est évident que tous les juifs du monde qui n'habitent pas en Israël, c'est soit parce qu'ils ne sont pas du tout... enfin, ils ne se revendiquent pas du tout de la Torah et des mitzvot, soit parce qu'ils sont dans l'incapacité physique de monter en Israël. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de juifs qui se revendiquent religieux, c'est-à-dire qui se revendiquent, qui acceptent la volonté d'Akadosh Baruch Hu et qui n'habitent pas en Israël alors qu'ils pourraient l'habiter. Ça n'existe pas. Ça n'existe donc pas, j'imagine, un juif qui habite en Chutz La'aretz religieux et volontairement en Chutz-Laaretz. Ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister. Ben non, ça ne peut pas exister de la même façon que tu trouverais ça quand même bizarre d'avoir un rabbin, je ne sais pas moi, qui prône des cours de Torah, mais qui te dit, moi, Shabbat, ça me saoule. Je prends la voiture parce que ça me saoule. Non, mais tout le reste, je fais très bien. Hein. Ou alors, tu as un monsieur qui te dit, mais moi, là, je suis fan de Dieu. Hein. Moi, la Torah, c'est mon dada. Hein. Mais juste, j'adore les jambons beurre. Ah, c'est un goût extraordinaire, donc je ne mange pas cachère, mais tout le reste, je fais. Et rentre chez toi, mon ami. Non, tu n'es pas crédible. Alors, comment ça se fait qu'on peut accorder du crédit à des gens qui volontairement rejettent la mitzvah d'habiter en Eretz Israël? Je parle évidemment, encore une fois, hein, de ceux qui ne peuvent, qui peuvent et qui ne veulent pas. Ceux qui ne peuvent pas, il est, c'est-à-dire Gamour. Il est à 100% au top. Enfin, on espère qu'un jour, il pourra, mais on ne peut rien lui reprocher. Et vous comprenez que quelqu'un qui n'habite pas en Israël par choix. Alors vous allez me dire non, parce qu'il y a un rabbin au XIIe siècle qui s'appelle Rabbi Moshe Dileon, qui a contredit le Ramban et qui a dit non, ce n'est pas une mitzvah d'habiter en Israël. Ce n'est pas une mitzvah, c'était une mitzvah jusqu'à l'époque de la destruction du premier Beth Amikdash. Depuis, ce n'est plus une mitzvah jusqu'au Mashiach. Ah, d'où t'as sorti ça? Pas mal. En fait, quand tu vois l'argument de Rabbi Moshe Dileon, tu vois qu'il cite le Sifri, le seul problème, c'est qu'il le cite en coupant des parties, et le Ramban ramène le Sifri en entier. Mais ce n'est pas seulement ça. Tous les rabbanim qui viennent après eux, du XIIIe siècle et qui suit, alors je ne vais peut-être pas dire tous, parce qu'on va toujours me trouver quelqu'un, 98% des décisionnaires de la halakha, de la fin des Rishonim et des Acharonim, ont tous été possèques comme le Ramban et pas comme le Megillat Esther. Il y a donc bel et bien une mitzvah, encore aujourd'hui, particulièrement aujourd'hui, d'habiter en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que c'est d'ici que tu vas pouvoir véritablement être toi-même et pouvoir transmettre un message à toute l'humanité. Les parachotes donc de Matot et Masseh sont la préparation à notre arrivée finalement en Eretz Israël. Et c'est pour ça que ben, le livre de Bamidbar se termine, il dit « Elle est à mitzvot, והמשפטים אשר ציווה השם ביד משה אל בני ישראל בערבות מואב על ירדן יריחו. Nous sommes sur le Jourdain, prêts cette fois à rentrer en Israël. C'est de cela qu'on parle. Le livre de Devarim n'aura qu'un seul rôle, nous donner les directives de la vie au quotidien en Eretz Israël. Chazak, chazak, venez chazak. Shabbat shalom à tout le monde.